On est le jeudi 4 qui se lève, on est le 7 novembre et le cours sera aujourd'hui pour la santé de Mahlouf Ben Kamouna. Bezrat Hashem, une très grande santé, ainsi que pour celle de son épouse, Colette Tzipora Chana Bat Rachel, ainsi que pour le mariage Bekarov Be'atzlacha Rabba de Audrey Rachel Bat Colette, et ainsi que pour la réfoua Shelema d'Avram Ben Rachel. Alors, une mise au point. Aujourd'hui, on termine Bezrat Hashem, enfin ce cours commencé depuis dimanche. L'apogée du cours sur le texte que je vous ai promis, le texte du Rabbi. Alors, aujourd'hui, on a juste un petit problème, c'est qu'on a beaucoup de textes et on a un magnifique petit déjeuner à 9h30. Et il est hors de question de se priver de Mahoud pour la Torah. Donc, ça se dit pas. Donc, aujourd'hui, je propose que le cours soit le plus long possible avec un minimum de questions, de manière à ce qu'on puisse lire. Si je vois que j'arrive à avancer plus vite que j'avais prévu, alors il y aura plus de temps pour les questions. De toute façon, il y aura du temps pour les questions, parce qu'on ne peut pas terminer une semaine de cours sur la France sans poser de questions, mais ça sera peut-être très très réduit, et on commence directement. Alors donc, comme je vous l'avais dit, en 1992, dans l'œuvre magistrale du Rabbi qui s'appelle Dvar Malchut, c'est une œuvre qu'il a enseignée, puis après ça a été rédigé, les deux dernières années de sa présence visible à nos yeux entre 90 et 92, puisque après de 92 à 94 il n'enseignait déjà plus, mais entre 90 et 92, donc il a commencé à donner un type d'enseignement complètement nouveau dans leur visibilité, pas dans leur fond. Parce que toute la Torah du Rabbi depuis 1951 a toujours été un habit enveloppant la notion essentielle qui est préparer le peuple juif à la délivrance finale. Mais disons qu'il y avait toujours l'habit qui faisait que c'était plus ou moins visible que c'est vraiment le thème traité. À partir de 1990, le Rabbi enlève tous les habits et la plupart de ses enseignements vont traiter visiblement, clairement, puissamment de la délivrance finale, préparer le peuple juif à la délivrance finale. Et donc tous ces enseignements ont été regroupés dans une œuvre phénoménale appelée Dvar Malchut. Et cette œuvre-là se fonde sur les parachutes de la Torah. Il aurait pu très bien choisir un autre thème de base. Il a choisi donc toutes les parachutes, les 5 livres, et donc pendant à peu près 2 ans, depuis Parchat Bereshit jusqu'à Parchat Devarim, il va donc donner des enseignements à partir donc des Parashiot. Il va donner donc des enseignements qui préparent clairement le peuple juif à la délivrance finale. Et c'est dans l'un de ces enseignements, et d'une manière tout à fait providentielle, c'est des enseignements qui sont liés à des Parashiot que nous sommes en train de lire en ce moment. Surtout la semaine prochaine, Parshat Vayishlar la semaine prochaine, et un peu plus tard Parshat Vayeshev, on est cette semaine Parshat Vayetse, et donc la semaine prochaine et la semaine d'après, deux parashiot très importantes, Vayishlar et Vayeshev, et dans ces deux parashiot, le Rabbi va révéler donc ce secret qui n'en est plus un pour nous depuis le début de la semaine, puisque je reviens constamment sur le rôle fondamental donc de la France dans la délivrance finale, bien sûr du judaïsme français, de la France aussi, du judaïsme français, dans la perspective donc de la délivrance finale. Alors on va juste, bien sûr, faire un minuscule résumé de ce que l'on a dit hier pour mieux comprendre, j'avais des livres là, qu'est-ce qui me les a enlevés ? Tant pis. Non, je les verrai. Bon, c'est pas grave, je connais par cœur. Donc, quoi qu'il en soit, donc on a vu hier, donc ce texte du Ari, non, c'est pas ça, non. On a vu hier un texte du Ari Akadosh qui disait que le tikkun final, c'est-à-dire la shlemut du tikkun, se fera dans un endroit représenté par le pied. dans un temps pied et par une génération pied, en réunissant tout ce qu'on a appris. Alors bien sûr, il appelle cet endroit Sof Atikun, Kshehishtalmu, Kshehishtaimu. Il utilise des mots, on va voir que le rabbi va faire exprès de reprendre les mêmes mots. S'il vous plaît, messieurs, j'en peux plus déjà.
Arrêtez.
Lorsque... Donc il utilise des mots qui sont Yistaimu, Yishtalmu. Lorsque se terminera ou lorsque on sera arrivé à la perfection du tikkun, de la réparation, dans la dimension pied. Alors évidemment, le Ari HaKadosh qui a vécu il y a 600 ans ne dit pas explicitement, bien qu'il le suggère, il suggère qu'il y a quelque part dans le monde un endroit pied où se passera la délivrance finale, mais lui-même ne dévoile pas l'identité de cet endroit pied. Par contre, il dévoile le temps pied, puisqu'il dit, c'est juste avant la délivrance finale, dans le temps pied, dans l'endroit pied, avec la génération pied, que se fera le tikkun final. Il ne dit pas clairement ce qu'est l'endroit pied. Simplement, hier, on a consacré une grande partie du cours à commencer à deviner ce qu'est l'endroit pied, en disant, entre autres, je commence par le plus rigolo, que la seule langue au monde qui, pour exprimer son bonheur ou son malheur, parle du pied, c'est « on prend son pied, tu me casses les pieds ». Et on a parlé du coq aussi, bien évidemment, et on a surtout ramené ce Zohar qui disait que là où se trouve, on pourrait dire, l'idéologie de la débauche, se trouve le pied. Et donc, toutes ces allusions, bien sûr, qui nous permettent de cerner la France. Et bien sûr, on a terminé aussi par l'allusion de la baguette, le pain français qui fait allusion, comme on le sait, le pain qui fait allusion à la femme, à la relation sexuelle, et tsarfat qui veut dire donc le pain allongé, qui a une forme donc de relation sexuelle, comme vous le comprenez. Quoi qu'il en soit, on va maintenant rentrer dans ce texte. Alors on se trouve dans le premier texte que j'ai choisi, Parshat Vayishlach, puisque c'est la première fois dans Vayishlach la semaine prochaine. Ce texte a été donné le 16 Kislev, donc Parshat Vayishlach en 1992. Le rabbi enseigne, et je ne prends qu'un passage de ce très très long texte bien sûr. Veyeshle aussi fulahir al derer haremez. Je vais maintenant rajouter à tout ce que je viens de dire que je ne vous ai pas lu, et vous faire une allusion. Tsarfat, le mot Tsarfat, juste un instant. Ça ne se fait pas en direct. Mais ça doit être un cours très très important ce matin, puisque je n'ai que des problèmes, des contrariétés, des livres qui disparaissent. Mais ce n'est pas grave. Bon. Il dit Tsarfat, Begematria, Sheva, Meod, Veshivim. On sait que le mot Tsarfat a pour valeur numérique 770. Alors, que signifie cette valeur numérique? Ashlemu de Mespar Sheva. Tu vois que dans le chiffre 770, tu as la perfection du chiffre 7. Unité, dizaine et centaine. Kefiche kol echad kalul me'eser, shivim, ou kefiche kol echad kalul me'mea, shva me'ot. Ce qui veut dire que le chiffre 7 dans le chiffre 770 est présenté sous ces différentes formes qui montrent qu'il y a une perfection du chiffre 7. Veshneem yachad, et tous réunis ensemble, donc forment le chiffre 770. Veyeshlomar, et de là tu comprends. Shebezemeruma, ce qu'on veut te faire comprendre dans le mot France lui-même, Tsarfat. Sheabirur, demdinat Tsarfat. Là, il reprend la même manière de parler que le Ari HaKadosh. Simplement que le Ari HaKadosh a dit hier, c'est pour ça que bon, le livre a disparu, mais ils ne mourront pas quand même. Le Ari HaKadosh dit Shabirur de Regel, Nigmar Venishlam, Birur Haolam. C'était les mots du Ari HaKadosh hier. Quand on terminera le Birur du pied, sera terminé le Birur du monde, c'est le Ari HaKadosh hier. Et alors viendra le Messie. Le rabbi reprend la même phrase du Ari HaKadosh. Il remplace le mot pied par le mot tsarfat. Et maintenant vous allez comprendre la puissance de la phrase. Encore une fois, bon, dommage je ne l'ai pas devant les yeux en hébreu, mais c'est ce qu'on a lu hier. Chez Bezé Merumaz, de là on comprend chez Abirur Demdinat Tsarfat, que lorsque l'on termine donc le birur, la clarification, la purification de la France, Nigmar Venishlam, ça c'est les mots du Ari HaKadosh lui-même, se termine et on arrive à la perfection, birur Haolam, de la purification du monde. Et pourquoi, quel est le rapport entre la France et ça? Ça, le Ari HaKadosh ne dit pas. Le Ari HaKadosh a parlé du pied. Mais là, le Rabbi va rajouter des choses extraordinaires. Il dit, on le voit même dans la Gematria, dans la valeur numérique du mot France. Pourquoi? Chez Nivra, Beshevat, Yeme Abinyan. Le monde a été créé en
7 jours.
Ce qui veut dire que le chiffre 7 est le chiffre qui représente la création tout entière. Et dans le mot France, on retrouve dans la valeur numérique tous les aspects du chiffre 7. 7, 70, 700. Puisque pour écrire 770, il faut avoir le chiffre 7. Et 770, tu as 70 et 700. Donc tu as le chiffre 7, le 70 et le 700. Ce qui montre que quoi? Que la France, là je vais compléter un petit peu par rapport à ce que le Rabbi dit, que la France, d'une certaine manière, incarne le microcosme de l'humanité tout entière. Ce qui est très très intéressant, c'est que cette notion de microcosme, c'est le substrat, c'est l'essence 777, 770, 700, pardon, le monde créé en 7 jours, c'est-à-dire que la France est le substrat et l'essence de toutes les oumottes. Ce qui est très intéressant, c'est que, généralement, on est habitué à dire qu'il y a un autre micro qui contient tout le macro, c'est Israël. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est Zelou Matze, ça veut dire la Kdusha et la Klipa, le fruit et l'écorce. Forcément, l'écorce, puisqu'elle contient le fruit, a les mêmes propriétés que le fruit. Si le fruit est le micro de l'humanité tout entière, automatiquement l'écorce porte aussi en elle ce micro qui contient l'humanité tout entière. Sauf qu'au niveau de la France, c'est au niveau de la Klipa, au niveau de la terre d'Israël, c'est au niveau du prix, au niveau du fruit. Prix, fruit, c'est le même mot. Maintenant, ce qui est extraordinaire aussi, ça, bien sûr, le rabbi ne le dit pas ici, mais il le dit, il fait allusion à ça à un autre endroit, mais je ne vais pas rappeler tous les textes, c'est que l'emblème de la France, comme on le sait, vous le savez tous, qui est liberté, égalité, fraternité, je ne sais pas dans quel ordre on le dit, liberté, fraternité, égalité, égalité, fraternité, c'est exactement la clipa de Pessah, Shavuot et Sukkot. Ça, déjà tous les juifs le savent, c'est le rabbi qui l'avait révélé en son temps. C'est tellement évident, personne n'avait encore vu avant lui. Pourquoi? Parce que liberté, c'est par rapport à Pessah, la fête de la délivrance. Égalité, c'est égalité, fraternité. Bon, mais chez nous, c'est fraternité d'abord. C'est la fête de Shavuot, où la Torah nous montre, dans un verset explicité par Rashi, que c'est parce que le peuple est arrivé à un niveau de fraternité qui est Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul corps, avec un seul cœur. C'est grâce au mérite de cette fraternité que nous avons reçu la Torah. Égalité, c'est la fête de Sukkot, puisque même si tu as, que tu es une villa ou que tu vis dans un HLM, tout le monde à Sukkot se retrouve dans la même maison, dans la même cabane, qui montre que fondamentalement, malgré les différences de richesse entre les uns et les autres, il y a une égalité fondamentale, une justice sociale fondamentale qui doit régner à l'intérieur de la nation d'Israël. Et donc, on voit que ces trois piliers qui sont les trois fêtes, justement, reprennent les trois thèmes, ou plutôt, précèdent les trois thèmes, plutôt, qui vont devenir les trois thèmes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, en ce qui est extraordinaire. Mais regardez le pélé, bien qu'on l'a déjà dit. C'est que comment s'appellent ces trois fêtes chez nous? Les trois pieds. C'est fou, mais c'est complètement fou, mais c'est incroyable. Les trois pieds. Et comment s'appelle, d'après le Ari HaKadosh, la terre qui incarne la dernière klipa dont il faut faire le birour? Le pied, que le rabbi décrit comme étant la France. Alors le rabbi donne une raison ici, c'est parce que c'est la chelemut du chiffre 7. Mais maintenant on comprend très bien aussi. Je vous ai déjà expliqué que toutes les parties du corps correspondent en état des attributs divins. Or, le pied, qui est la fin du corps, correspond à quel attribut divin? Au septième, à la malchut, à la royauté. Puisque les sept parties du corps, on pourrait dire, il y a sept parties du corps qui correspondent aux sept dernières sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, ça commence ici au tronc. le tronc, le thorax, pardon, excusez-moi, c'est Tiferet. Je ne vais pas tout expliquer, mais enfin bon, je peux aller très vite. Le tronc, c'est Tiferet. Le bras droit, c'est Chesed. Le bras gauche, c'est Gvura. Le Yesod, c'est le Brit. La jambe droite, c'est Netzar. La jambe gauche, c'est
Od.
Et les pieds, le côté droit de Malchut et le côté gauche de Malchut. C'est la droite et la gauche de Malchut, puisque Malchut est une sphira du milieu, donc elle contient les deux. Donc les pieds, c'est Malchut. Et maintenant, regardez donc. Malchut à quel numéro? 7. La France, c'est 770. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Yaakov tenait le pied, le talon de Esav. Ce qui veut dire donc que ce pied-là, c'est bien sûr la France. Et qu'est-ce que dit Rashi? Il utilise le mot Malchut. Le pied représente la Malchut. Lorsque la malchoute de Esav se terminera, au moment où elle sera en train de se terminer, à ce moment-là commencera la malchoute d'Israël. Donc, avec le Passouk, le Ari HaKadosh, tout ce que l'on connaît de la Torah et ce que dit le Rabbi, on comprend très bien que, d'une certaine manière, la fin de la malchoute de France signifie le véritable début de la malchoute d'Israël. Maintenant, ce qui est absolument incroyable et extraordinaire, c'est que le Rabbi dit ça en 1992. N'oublions pas que l'histoire ne va pas aussi vite que la parole d'un enseignant. Mais quoi qu'il en soit, si on constate, et on le sait tous, qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce qui se passe à partir de la France en Europe tout entière, c'est d'une certaine manière la fin de l'Europe, dans le sens de ce qu'elle a été jusqu'à ces dernières décennies. Le monde représenté par Esav sans aller beaucoup plus loin. Et donc cette Europe-là et cette France-là est en train de disparaître pour être remplacée par un nouveau système qui va complètement muter l'Europe que nous avons connue pendant des millénaires. Et donc automatiquement, on voit bien que ce que dit Rashi, au moment où la malchoute de Esav commence à disparaître, renaît la malchoute d'Israël. Et effectivement, au moment où le vieux continent est en train de sombrer, Israël, notre pays, naît et se renforce de plus en plus. Donc on voit que des prévisions, on pourrait dire, des prophéties et des prévisions d'après Rashi, prophétie c'est le texte lui-même, mais ce que Rashi disait, on le voit sous nos yeux se réaliser. Seulement le problème c'est qu'on est tellement à l'intérieur qu'on n'a pas suffisamment de recul pour se rendre compte qu'effectivement les choses se passent de cette manière-là. On continue maintenant. Oléaïr, je veux te faire comprendre encore autre chose. Chez Abirour de Tsarfat, que la purification, c'est pas le mot purifié, Birour, c'est le tri. Bon, l'affinement, bravo, je préfère. L'affinement de la France, chez Misparo 770, dont le chiffre 770, n'a assez. Se fait grâce à qui? Se fait grâce au Bet Yosef. Il fait allusion à la Haftara de Vaishlar. Qu'est-ce que dit la Haftara de Vaishlar? La fin qu'on verra la semaine prochaine. Ve'aya Bet Yaakov Hesh, ou Bet Yosef Lehava, ou Bet Esav Lekash. Yaakov sera du feu, Yosef sera une flamme, Esav sera de la paille, et la flamme de Yosef s'emparera de la paille de Esav, et Ve'lo Yeserid, Sarid, Bet Esav, et il ne restera rien dans la maison de Esav. Et le Rabbi explique, la France 770, mais qui est la flamme? Alors il explique, la flamme, c'est la maison qui porte aussi le numéro 770, qui a été achetée par mon beau-père qui s'appelait Yosef. Le beau-père du Rabbi s'appelait Yosef. Et donc il explique, chez Meira Bet Yosef, Ve'ad le Bet Yosef Kepshuto, Abaït Shebo, Bachar, Ve'ad, Shekano, mon beau-père, la maison que mon beau-père a achetée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il est en train de révéler. Ou Misham Olechel Benim Shechet, etc. Et son numéro, c'est 770. C'est-à-dire que le Rabbi est en train de révéler ici, je reprends mon souffle, que déjà depuis des décennies, lorsque son beau-père, en 1940, en pleine guerre, s'installe à New York, Brooklyn, à cette époque-là, Brooklyn, aujourd'hui pratiquement plus comme ça l'était, mais Brooklyn était un quartier pratiquement que juif. À cette époque-là, aujourd'hui les Juifs sont beaucoup passés dans d'autres quartiers comme Williamsburg, Borough Park, etc. etc. Et dans Brooklyn ne reste pratiquement que les rabbins. Mais à l'époque, je veux dire, choisir une rue où acheter, l'endroit où il va fonder, on pourrait dire, son QG, il y avait des milliers de rues possibles, avec des milliers de numéros possibles. Bien que Eastern Parkway est une rue qui est aussi grande que d'ici à Natania. J'exagère, mais presque. Le boulevard principal qui traverse Brooklyn. Et donc, qu'est-ce que le rabbin est en train de nous révéler ? Que son beau-père cherche une maison, il faut que ça corresponde aussi à la taille, mais qui porte numéro 770. Parce que son beau-père n'a qu'un seul souci en tête, la Géoula du monde, et il faut que ça passe par le Tikkun de la France. Ça veut dire que, on pourrait dire que tout Chabad américain s'est fondé sur le seul et unique souci de faire le Tikkun de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que le Rabbi révèle ici. Pourtant, Chabad, c'est dans le monde entier. Comme on le sait, même il n'y a pas Coca-Cola, il y a un vrai Chabad. Non. Il n'y avait qu'un seul souci, faire le Tikkun de la France. Pourquoi j'insiste? C'est la première fois depuis que vous me connaissez que j'insiste si lourdement et si longuement sur des notions purement Lubavitch. Mais c'est pour, justement, parce que si je parlais tous les jours de Lubavitch et du Rabbi, je dis bon, allez, il va faire encore son coup. Ça fait 4 ans que vous m'entendez, pour certains. C'est la première fois que vous m'entendez le dire. Donc ça donne toute la préciosité, toute la force à ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas du rabâchage. C'est-à-dire, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que, jusque dans le choix du numéro de la maison, il fallait faire comprendre au monde l'importance de la France. De sorte que la maison qui va se trouver aux États-Unis n'est que d'une certaine manière le miroir de ce qui doit se passer en France. C'est pour ça qu'il cherche une maison qui porte le même numéro au niveau de la valeur numérique, 770. On continue. Ou bien en mettre Yoter, je vais t'expliquer plus profondément encore, dit-il. Tsarfat, le mot Tsarfat, France, Otiot ou Faratsta, ça c'est dans la parasha de cette semaine, Bayetse. On a quand même ruiné notre parasha. Yaakov rêve, au début de la parasha, il voit une échelle. Et après Hachem le bénit, etc., il lui dit, ou Faratsta Yama Vakedba, etc. C'est devenu une chanson de Babich comme c'est connu. Mais ou faratsta, c'est-à-dire tu feras péter les limites, tu feras tomber toutes les limites. L'ifrotz, quand même en hébreu moderne, quand un voleur arrive à ouvrir une porte fermée, on dit qu'il est poretz, c'est-à-dire il brise, il fait tomber, il casse la limite. Comment qu'on appelle une femme dévergondée?
Proutza.
Une proutza. Quel est l'emblème de la France? Une femme dévergondée. J'ai regardé hier, c'est pas un seins nu, c'est des deux. Je m'étais trompé. Non, parce que je voulais mettre la photo sur le titre du cours. Quand j'ai vu qu'il y avait. J'ai vu les deux, j'ai dit non, ok. Un, déjà, je vais me faire descendre. Deux, c'est fini, le site est mort. Donc j'ai mis un coq à la place. Le cours n'est pas encore, parce que j'ai eu un problème technique, le cours n'est pas encore, il sera tout à l'heure sur le site. Donc j'ai mis un coq. Mais donc je me suis aperçu en cherchant la photo que c'est les deux. Comment qu'on appelle ça? Proutza! Tsarfat! Ah, maintenant regardez ce qu'il dit. Mais c'est incroyable, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Otiot ou paratsta, tu feras tomber les limites, donc les limites de la pudeur. Chez Bezem et Roumaz, et de là tu comprends. Chez Gilouï va fatsata mayanot ou betsarfat. Que c'est précisément en France que vont se dévoiler les sources de la chassidoute. Ça veut dire ces fameuses sources qui doivent se dévoiler. Au sujet desquels le Mashiach a dit au Baal Shem Tov. Cette fameuse lettre du Baal Shem Tov, je vous le dis à chaque fois, le Baal Shem Tov n'a jamais rien écrit de sa vie. Tout ce que nous avons du Baal Shem Tov, c'est son élève qui l'a écrit. Comme Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, comme le Ari HaKadosh et Rabbi Chaim Vital. Il y a énormément de tzadikim dans l'histoire qui ont enseigné oralement, mais c'est les élèves qui ont écrit. L'élève choisi, bien évidemment. Le rabbi aussi, pratiquement. Tous les écrits que nous avons du rabbi, ce sont ses élèves qui ont écrit. Relus, corrigés par le rabbi, bien évidemment. Mais ce n'est pas de sa plume. 99% des écrits du rabbi, c'est des centaines de livres, ont été écrits par les élèves et relus et corrigés par le rabbi. Et ça ne sort pas de sa plume. Parce qu'il était trop préoccupé à enseigner pour avoir aussi le temps d'écrire. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On a une seule écriture, un seul texte qui nous reste de la main du Baal Shem Tov lui-même, qui se trouve chez des descendants, lui je crois quelque part à New York, qui vaut aujourd'hui des millions de dollars, qui est protégé, enfermé dans des coffres-forts, etc. Une lettre qu'il a écrite, c'est le seul écrit qu'on a du Baal Shem Tov, qu'il écrit à son beau-frère, le Rav de Kitover. Et il lui dit aussi simplement que je vais vous le dire, sache que le Rosh Hashanah de cette année, je ne sais plus quelle année c'était, pendant la prière de Moussaf, mon âme est montée dans les Echalot d'en haut, mon âme est montée dans les mondes d'en haut, je suis arrivé jusqu'au Echal du Mashiach, et je lui ai demandé, Matai Ka'atemar, quand vas-tu venir? Et il a répondu, quand tes sources répondront dans le monde entier. Donc, le Mashiach a livré au Baal Shem Tov le secret de la délivrance, que la Torah, et surtout les sources de la Torah, c'est-à-dire la profondeur de la Torah, se dévoile dans le monde entier. Et le Rabbi explique ici, et c'est la première fois qu'un Rabbi va le dire ici, à quel endroit du monde le Mashiach lui-même faisait allusion, où veut-il voir les sources profondes de la Torah se dévoiler? Tsarfat. Et le remez, explique le rabbi, est dans la Torah. C'est ce à quoi avait fait allusion Hachem à Yaakov lorsqu'il lui a dit Ufaratzta. Ça veut dire grâce à la France, on arrivera à Ufaratzta. Pourquoi? Parce que la France, elle est Proutsa. Et donc, si tu récupères ce défaut et tu en fais une qualité, à ce moment-là sera la délivrance. Et pourquoi? Alors maintenant, je vais vous dire oralement ce que le rabbi explique très longuement dans d'autres textes. Ici, dans Vayishlam et surtout dans Vayeshev. Il explique pourquoi. Il dit, parce que tout le inyan de la réparation du monde, ce n'est pas de chasser les défauts ou de les exterminer. Ce n'est pas ça. La réparation du monde, comme on le sait d'après les secrets de la Torah, c'est prendre le défaut et le récupérer dans la sainteté. Parce qu'en vérité, Hachem n'a rien créé de mal. C'est uniquement les hommes qui utilisent mal ce que Hachem a créé. Et il explique que chaque pays... C'est dans Parchat Vayeshev. Chaque pays a reçu une trouna, a reçu un tempérament précis qui peut être son défaut et sa qualité. Mais il dit que malheureusement, jusqu'à la délivrance finale, toutes ces qualités ou tous ces tempéraments, tous ces traits de caractère qui ont été donnés aux 70 peuples sont malheureusement utilisés surtout dans le mal et pour faire le mal. Le rabbi explique que la France a reçu la trouna de faire péter les limites. La France est révolutionnaire, dit le rabbi, c'est la raison pour laquelle la révolution est née en France. Il monte sur les barricades. La barricade est une limite. Atkan, ne va pas plus loin. Je monte sur la barricade, je fais tomber la barricade. Le tempérament français, celui qui n'existe plus aujourd'hui parce que la France est en train de disparaître malheureusement, mais le tempérament français a toujours été de faire sauter les limites. Et donc ça c'est la qualité de ce tempérament. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours été les précurseurs dont tout ce qui a fait bouger le monde, en tout cas ces longs derniers siècles, dont ce qui a fait le plus bouger le monde, qui a créé, qui a été l'initiateur, le fondement et la matrice du monde moderne, la Révolution française, tout le monde le sait. Sans Révolution française, il n'y a pas de monde moderne. Et donc automatiquement, cette capacité de faire sauter les limites, c'est le tempérament français. Malheureusement, la France l'a surtout utilisé dans le mal, c'est-à-dire le dévergondage, le coq, les seins nus, dans tout ce qui est manque de pudeur, ou on peut dire faire sauter les limites de la pudeur, la France a toujours été à l'avant-garde. Mais le rabbi dit, mais de ce défaut tu comprends la qualité. Ce que le Mashiach a besoin c'est de récupérer ce défaut pour en faire une qualité. Ou faratzta, c'est-à-dire ne pas avoir peur des limites de ce monde. Lorsque la Torah se répand partout, même dans les endroits où on ne peut même pas imaginer qu'elle pouvait arriver un jour. Aussi au niveau du comportement, le Mashiach et la génération du Mashiach seront une génération proutsim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur des limites, qu'ils ne s'arrêtent devant rien, qu'ils ne restent pas dans les sentiers battus, dans l'établissement, dans le monsieur tout le monde. Le tempérament messianique est un tempérament parout, dévergondé, mais dévergondé dans la Kdusha. C'est-à-dire, je refuse de suivre le chemin de tout le monde. Parce que justement, je fais tomber toutes les limites. Alors, c'est ce qu'il explique maintenant. Pritzat kol agdarim. La France va apporter au Mashiach cette qualité qui est de faire tomber toutes les limites. Velorak beofen shemitzat pritzat kol agdarim d'armayanot ba'im gam betarton shen tarton et matan emeno. Et pas seulement, écoutez ce qu'il dit, que la force de la France récupérée par le Mashiach, ça va permettre à ce que la Torah se répande partout, mais plus encore, chez Gam Mitzad Tachton, Mudgash, Bekar, chez Tsarfat, Otiot, Paratsta. Ça veut dire que le tempérament français va faire que même ceux qui étaient tout en bas vont monter tout en haut. Et là, il fait allusion à quelque chose d'absolument incroyable. Je vous ai expliqué, je l'ai dit aussi, je ne sais plus, je crois, hier, dans un autre cours, je ne me rappelle plus, ou ici, peut-être. Ah non, ici, ici. On a dit hier, rappelez-vous que la différence fondamentale, oui, bien sûr, c'est ici qu'on l'a dit, à la fin du cours d'hier, entre toutes les générations et celle de la délivrance, c'est que dans toutes les générations, c'est les grands d'Israël qui faisaient l'histoire. Mais juste avant la délivrance, c'était le Chidouche du Rav Kook, je ne sais plus qui l'a dit. Comment ? Voilà, Olivier. Mais que le Rav Kook explique, et l'histoire lui a donné raison, c'est que juste avant la délivrance finale, Hachem ne veut plus que l'histoire ne soit faite que par les grands. Il attend de son peuple, de ceux qui sont tout en bas, de se réveiller et de prendre l'histoire en main. Parce que comme il s'agit de délivrer l'humanité, donc les peuples, les foules, les masses, ça ne peut plus être l'initiative de l'individu uniquement. Il faut que tout le peuple participe. Et donc c'est la raison pour laquelle le rôle de chacun au moment de la délivrance, du tarton, de celui qui est tout en bas, est fondamental. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous cacher, nous décharger derrière et sur les épaules des grands. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle on n'en voit plus. L'un des derniers vient de disparaître encore maintenant. Ça veut dire que, voilà. Et comme le rappelle Richard, le verset nous avait prévenu dans Ésaïe. Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Le Mashiach lui-même ne viendra pas du monde des grands. Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui vient des profondeurs de la terre et qui pousse du bas vers le haut. Ce que le rabbi appelle le Baal Teshuvah. Puisque la délivrance se fera par la force du retour. Et donc ça c'est le tempérament français, pourquoi ? Parce que dans le tempérament français, il y a deux défauts qui deviennent des qualités chez le Mashiach et chez la génération du Mashiach. C'est-à-dire, l'Ifrotz Kol Hagdarim, on fait tomber toutes les limites. C'est-à-dire, c'est du non-conventionnel absolu, c'est du non-establishment absolu, du non-limite, et aussi cette vision du petit qui peut devenir grand. Et ça c'est typiquement français. Où est le peuple ? Qui a eu le courage pour la première fois de dire que le simple citoyen peut s'auto-gérer et on n'a pas besoin des rois, qui a osé remettre en cause ce qui était établi depuis le début de la création, que l'histoire se fait parce qu'il y a à la tête un dictateur, un roi, un inspiré, un représentant de Dieu, qui est le premier peuple qui a osé dire que le simple citoyen, que Madame Marianne, que Monsieur François, peut décider de son destin et du destin du monde, qui a été le premier peuple à le dire ? Vive la France ! Je dis maintenant avec tout le sérieux du tempérament récupéré. Vive la France ! Un jour, on va presque se mettre à pleurer de voir la France disparaître. Surtout après avoir des groupes pareils. Mais oui, c'est malheureux que la France disparaisse. C'est malheureux que plus personne ne se lève devant l'hymne du 14 juillet ou qu'on crache sur le drapeau français. Oui, bien sûr. C'est un juif de Jérusalem qui parle comme ça. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, la première fois sur Terre que des citoyens ont dit « Nous allons prendre notre destin en main », c'était en France. La révolution de 17 en Russie n'a fait que reprendre la révolution française.
Et le droit à la résistance à l'opposition.
Bien sûr. Et c'est tout un rideau. Jamais on a vu ça dans l'histoire. Jamais. J'oserais presque dire, mes amis, que même la sortie d'Égypte n'est pas au niveau de la Révolution française, au niveau du fond de la qualité. Parce que nous avons fui l'oppresseur, mais nous n'avons pas pris le destin de l'Égypte en main. On n'a pas remplacé un système par un autre. Eux, ils sont sortis d'Égypte à l'intérieur de l'Égypte. C'est-à-dire ils ont pris le pouvoir, ils l'ont enlevé des mains de l'oppresseur pour mettre à la place des gens du peuple. Et ça, c'est un ridouche unique dans l'histoire qui a engendré tous les autres. La révolution bolchevique, etc., etc. Et ça, c'est la France. Donc ça que le rabbi dit, le tempérament français, s'il est récupéré par le Mashiach, va permettre deux choses. C'est que d'abord, on fait tomber les limites. Deuxièmement, on n'a plus peur d'être petit. Et on arrête de se sentir minuscule devant les grands. Puisque précisément, la puissance messianique, c'est précisément le petit qui prend les rênes en main. C'est ça toute la puissance messianique. Et c'est ce qu'il va révéler dans chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il va faire de nous des géants. Parce qu'il va révéler dans chaque homme, dans chaque femme, que malgré son apparence petitesse, c'est un géant. Et qu'il faut révéler le géant qui est en lui. On continue, juste encore, enfin non, encore pas mal de choses. Vous voyez ce qu'il dit? Medinat Tsarfat, parce que la France, puisque maintenant il parle du réveil du petit, Liota Tarton les Mata chez En Tarton et Mina. La France représente, et c'est pas une contradiction de tout ce qu'on vient de dire, le bas du bas qui n'a pas plus bas qu'eux. Pas dans le sens qu'on peut le comprendre, parce qu'il est en train de faire une éloge, au contraire, du tempérament français. Mais le bas du bas, dans le sens comme on va le voir maintenant écrit dans Vayeshev, là j'ai terminé dans Vayishlar, le bas du bas en ce sens que la France a été l'initiatrice de cet éloignement à l'extrême de Dieu, c'est la Révolution française qui a proclamé la mort de Dieu, c'est la Révolution française qui a remplacé les 10 commandements par les... Par d'ailleurs, je crois que
la déclaration des droits de l'homme,
et l'intention était énorme. Attention, il s'agit que Dieu ne plaise pas de critiquer la déclaration des droits de l'homme. Mais comprenez la finesse, la puissance qui se idéologique qui se cache derrière ça. Ah, jusqu'à présent, on parlait de quoi? Des devoirs de l'homme. C'est-à-dire que ce que nous, on doit à Dieu, maintenant, c'est les droits de l'homme. Tout n'est que pour l'homme. Il y a une finesse idéologique incroyable dans cette... Dans ce quand on remplace l'un par l'autre.
Donc, substitution.
Cette substitution des 10 devoirs par les 10 droits. N'oublions pas aussi qu'il y a eu une tentative révolutionnaire de quoi? De faire des semaines qui soient des...
Des décades.
Et là aussi, il y avait une intention messianique là-dedans. Parce que le chiffre 10 par rapport à un chiffre qui correspond à une perfection dans... dans l'Akdoucha. Mais cette fois-ci, il est plus dans la
Kippa.
Le
septième jour, en fait.
Effectivement. C'est-à-dire que nous, on a dépassé le septième jour. On a fait tomber les limites. On ne s'arrête plus à 7. On rentre maintenant dans un monde qui est au-delà du chiffre 7.
Donc, et le Shabbat est fini, peut-être.
Bien sûr. Mais bien sûr. On rentre dans les trois... C'est ce qu'on dit, c'est les trois sphères du haut. N'oublions pas, c'est un simple remèze, mais c'est trop fort pour ne pas le redire, que les révolutionnaires se sont appelés aussi les sans-culottes. Alors, évidemment que c'est sans-culottes sans la culotte des nobles. Mais ça reste sans culotte aussi, les dévergondés. N'oublions pas que la mode aujourd'hui, c'est on fait tomber, l'adolescent, il fait tomber son pantalon jusqu'en dessous le slip. Comprenons ce qui se cache derrière tout ça. La notion de sans culotte, c'est une notion liée à la Révolution française. On se dévergonde dans tous les domaines. Plus de Dieu, plus de limites dans la pudeur, plus de roi. Alors, encore une fois, au niveau de la Révolution française... C'est loin de n'être que des qualités. Ça a été complètement récupéré par la Klippa. Mais c'est comme si le rabbi nous disait ici, mes amis, que la délivrance finale se fera sur le modèle de la Révolution française, sauf que cette fois-ci sera dans la Kdoucha.
Avec la violence, c'est ça ?
Non, pourquoi la violence ?
Parce que la Révolution française, la violence, c'est pas mal.
Mais c'est ça, c'est la Klippa, c'est ce que je t'explique. Et c'est pas que la violence, c'est la débauche, c'est les orgies, c'est entre deux barricades, on imagine ce qui se passait... dans les rues de Paris, on sait ce que ça a été la Révolution française, ça a été une orgie à tous les niveaux.
Mais
peu importe, quoi qu'il en soit, l'impulsion, ça a été une orgie sexuelle, une orgie de sang, une orgie de violence, une orgie de tout ce que tu veux, on le sait. Mais quoi qu'il en soit, la puissance d'un maître d'Israël comme le Rabbi, c'est qu'il ne se laisse pas aveugler par la Klippa, il cherche l'étincelle de bien, c'est ce qui fait la différence entre un sage et un imbécile. L'imbécile ne voit que ce qu'il voit. Il dit, ouais, c'est affreux. Mais le rabbi a la puissance de trouver l'étincelle divine qui se cache dans ce phénomène et dit, cette étincelle-là, non seulement il ne faut pas la nier, mais c'est de ça qu'aura besoin le Mashiach pour délivrer le monde. Il devrait être un sans-culotte, mais dans la Kdoucha. Quand tu es dans la Kdoucha, sans débauche, sans meurtre, sans scie, sans ça, ça c'est la Klippa. Mais l'étincelle, bien évidemment, elle est récupérée. C'est le sort de Vena Afor ou de tout récupérer dans la Kdoucha. On va lire encore petit texte.
Il y a une phrase qui dit « M'arrache pas toi qui arrive me viande ». Si vous prenez à la pshat, c'est dès le plus bas, il va monter les viandes, c'est les trucs. Et de l'autre côté, c'est les plus bas, tu vas faire quelque chose de mieux.
Absolument. David disait ça sur lui. Absolument. On va lire maintenant, on continue. On est dans les Pachats de Vayeshev. Ce cours a été fait en 92, le 23 qui se lève. Et on continue. Quand la Yanim Bnouyim Bofen Shel Klalut Upratut, sache que tout ce qu'ont enseigné, tout ce que j'ai enseigné, tout ce qu'ont enseigné nos maîtres, il ne faut pas le comprendre seulement d'une manière globale, théorique, comme hier le texte du Ari Akadosh, qui dit que lorsque l'on atteindra l'endroit pied, dans la génération pied, dans le temps pied, alors le Mashiach viendra. Le rabbi dit, ça c'est des klalim. Mais un juif a le devoir de comprendre, mais pratim, concrètement, ça veut dire quoi? Ça c'est une approche très très chassidique. Si la Torah ne me parle pas à moi aujourd'hui, à cette seconde, à cet endroit précis, à quoi elle me sert? Donc le rabbi maintenant va essayer d'interpréter tous ces textes qui parlent du dernier tikkun du monde avant la venue du Mashiach. Mais pratout, ça veut dire quoi? Et il explique ce qu'on vient de dire. Shlemut birur ha'olam. La termination, j'invente un mot, l'accomplissement du birur ha'olam dont parle Ari HaKadosh comme on l'a vu hier. Mishtakev b'miuchad fait allusion d'une manière claire, b'birura d'une manière claire, Shel Medina Tsarfat au Tikkun de la France. Et il continue. Ubeekdim Shebeechad Meyuda Gula. Et la preuve, on arrive maintenant à Obadia, c'est qu'un prophète l'a dit clairement. Le prophète Obadia, dont on va lire la Haftara la semaine prochaine après Parshat Vayishlah. Qu'est-ce qu'il dit? Vegalut Achel Hazel Ivne Israël. Puisque l'exil a commencé à Tsarfat, par la France, Yarchou et Ariel Negev, lorsqu'ils reviendront et habiteront les villes du sud, dont Jérusalem fait partie, puisque dans toute la Torah, en commençant par Pachat Lech Lecha, quand on dit le mot Negev concernant Eretz Israël, Rachid dit sa allusion à Jérusalem, qui s'appelle Negev, il y a une raison très profonde pour ça. Vehalou Moshiim Be'ar Tzion, fin de la Haftara. Alors montrons ceux qui ont été délivrés, ceux qui sont revenus en Israël de France, montrons sur la montagne du Tzion, l'Ishpot et Aressa. Donc ici, le rabbi fait une allusion extraordinaire. Il explique, grâce à cet Haftara, qu'attention, tout ce que je viens d'expliquer dans Parshat Vayishlah, que la France, le Tikkun de la France, les sources en France, c'est sûr. Parce qu'il faut faire le tikkun de la France. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Regardez ce que dit Obadia. Lorsque reviendront les Juifs de France et monteront sur le mont Sion pour juger la montagne de Essav. Ce qui veut dire que le dévoilement de ces notions se fera à Jérusalem et non à Paris. Ve'alou be'ar Tzion, lishpot et ar Essav. Ceux qui étaient exilés en France. Et le rabbi pose la question. Ah, comment ça va? Puisque le rabbi parle de l'exil et de la délivrance liée à Tsarfat. Puisque n'oublions pas que ce que dit le prophète Obadia, et c'est expliqué par les commentaires sur place, c'est qu'après la destruction du deuxième temple, les premières vagues de juifs envoyées au-delà de la Méditerranée et en exil, sont arrivés en France. Et c'est pour ça que le verset dit « Agalut achel hazé atzarfat » Le galut a commencé en France. Et donc, puisqu'il a commencé en France, il se terminera par la France. « Sof ma'asé de marshava trila » C'est-à-dire que le retour des Juifs de France à Jérusalem est le dernier signe éminent de la délivrance finale. Mouvan, on comprend donc, il y a donc forcément un lien clair entre l'exil, la délivrance et la France. Puisque Obadia ne parle que de la France. Etc. Parce que ça ne suffit pas de dire uniquement comme je viens de dire. Comme je viens de dire ce qu'il vient de dire. Que puisque ça a commencé par la France, ça terminera par la France. Parce que c'est vrai, mais c'est technique. Il y a forcément une raison plus profonde. Il dit la chose suivante. Donc, il y a toute une explication, et il explique, parce que dans le mot Tsarfat, Kishlemut Birur Olam Vaitashem Emlucha, Nifal Ede Birur Valiashel Bene Israël Betsarfat. Je veux comprendre, dit le rabbi, pourquoi, quand on fera le Birur de la France, à ce moment-là se termine le Birur du monde. Alors, je ne vais plus lire le texte maintenant, parce que je me rends compte que ça a été encore moins vite que je le pensais, et je veux quand même m'arrêter qu'il y ait des questions. Je vais vous lire toute la suite, je vais vous résumer toute la suite, et je reprendrai peut-être un passage ou deux. Le rabbi va expliquer toute l'histoire de la Révolution française, comme jamais on pourrait la lire dans un livre d'histoire. N'oublions pas que le rabbi avait une connaissance, pas seulement de scientifique gigantesques, mais d'histoire, de littérature, de philosophie, etc. Et donc il reprend toute la Révolution française dans ses thèmes les plus fondamentaux. Et il explique que tout le ignat de la Révolution française a été finalement de munir, de doter le monde de sa matrice moderne. Comme il le dit ici par exemple, je le lis ici, « Ma pechazu aita echad ameorot aikarim » Sache que cette révolution a été l'un des événements déterminants « She'aleem ushtetu yesodot hanaga shel ha'olam ha'moderni » qui a permis d'apporter au monde le fondement, la fondation, mot à mot, sur laquelle s'est créé le monde moderne. C'est-à-dire que tout le monde moderne est né sur la Révolution française. Et il explique, et quel était, regardez ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, quel était le, et pourquoi c'est devenu un fondement, pourquoi ? Il dit, parce que jusqu'à présent, depuis les premiers instants de la création, l'humanité était habituée à être dirigée par une ou deux personnes, les rois, les empereurs, les dictateurs. Et voilà que Vehen Anigua, que les révolutionnaires français ont inventé un nouveau système chez Ala Bedatam, qu'ils ont inventé, Amerpecha Aita, chez Bne Adam, Chofshiim, Nitnage, Birsolam, que chaque homme a le droit de se diriger par lui-même. En pure théorie, c'est quoi la démocratie? C'est la voix du peuple, c'est la voix du boulanger, c'est la voix du cuisinier, c'est la voix du balayeur, qui envoie sa voix diriger le pays. Mais c'est ma voix, c'est comme si c'est moi qui dirigeais. En pure théorie, parce qu'aujourd'hui, les dés sont trafiqués d'avance, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit que nous essayons de récupérer. Et donc, je continue. Il explique la chose suivante. Mais sache, ça je le dis oralement, que le birour de la France n'a pas été facile. Parce que ce qui accompagnait cette idéologie que l'homme doit se prendre en main, ce qui accompagnait cette idéologie, ce qui la sous-entendait et la précédait, c'est que le premier qu'il faut foutre en l'air, c'est qui? C'est qui? Mais c'est Dieu! Parce que c'est le premier à nous imposer autre chose que nous-mêmes, tel que eux, bien sûr, le comprenaient. S'ils avaient compris la Torah, ils n'auraient jamais dit ça. Mais ils se sont révoltés contre la religion, contre les religions. Et c'est vrai, nous sommes, et je suis le premier à le dire, qu'il n'y a pas de système dictatorial plus puissant que la religion. Puisqu'elle enchaîne l'homme sans avoir besoin de créer des chaînes. Elle l'enchaîne dans son mental. Mais la Torah n'est pas une religion. Donc, une aliénation. Donc, le premier roi qui a été visé, ça a été Dieu. Le rabbi explique qu'en vérité, quand il coupait la tête des rois de chair, c'était pas la tête du roi qu'il coupait, c'est la tête de
Dieu.
C'est pour ça qu'ils se sont acharnés à couper des têtes. Allez, encore une tête, on t'enlève. Encore une tête, on t'enlève. Pourquoi? Parce que les rois eux-mêmes se désignaient comme étant les représentants de Dieu. Donc en vérité, le rabbi explique que ce n'est pas les rois qui étaient guillotinés, c'est Dieu qui était guillotiné. Donc automatiquement, cette révolution qui, dans un sens, a voulu apporter quelque chose d'extrêmement positif et messianique, que chaque homme prend son destin en main, qui est tout le projet messianique. Mais comme c'était dans la clipa, automatiquement, les ennemis ont été mal visés, c'est-à-dire qu'on a mal défini le bien et le mal, définition parfaite de la faute d'Adam Arishon qui est rentrée dans la confusion du Da'at, du Tov Vera, ça veut dire que l'homme sait qu'il y a le bien et le mal, mais il se trompe complètement dans sa définition du bien et du mal, c'est ce qu'ont fait les révolutionnaires. Ils ont compris qu'il y avait un mal, en ce sens que ça suffit que le destin des hommes soit entre les mains d'une bande d'individus, comme c'est d'ailleurs nous, le cas aujourd'hui, de toute façon on est entre les mains de Coca-Cola ou des produits pharmaceutiques, c'est eux qui décident de mon destin. Quoi qu'il en soit, en pure théorie, l'idée révolutionnaire était messianique, les hommes doivent prendre leur destin en main, mais ça a été récupéré par la clipa parce qu'ils ont mal cerné l'ennemi. À partir du moment où ils cernent que l'ennemi véritable c'est Dieu, et c'est contre lui qu'on se bat, automatiquement, c'est sûr que tout va après foirer complètement. Mais c'est de la clipa, on peut lui demander plus que ce qu'elle est. Mais le Machiav, lui, va s'interroger, va réfléchir sur le sens de la Révolution française et va arriver à récupérer cette étincelle, mais cette fois-ci pour le bien de l'humanité tout entière. On continue encore un petit peu. Et regardez ce qu'il dit. Regardez maintenant. Un texte très important. Bien que ce n'est pas 100% nouveau, il dit, pourquoi, encore une fois, le tempérament de la France?
Chez Inyanze Omed Badgasha Yetera Be'alar Benimousse.
On a un texte dans le Talmud qui est extrêmement codé, que ici et dans différents endroits, le rabbi décode, qui dit une sorte de proverbe. Lorsque tu es dans un endroit, comporte-toi selon les coutumes de l'endroit. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait dans une baraque? Je veux dire, n'importe qui peut dire une chose pareille. Le rabbi explique que derrière cet enseignement codé du Talmud se cache en vérité tout le sens de l'exil et du pourquoi on y est et qu'est-ce qu'on doit y faire si déjà on y est. Alar Beni Moussé signifie, et ça c'est la reprise dans le langage du rabbi de tout le texte qu'on a vu hier et avant-hier dans le Hari HaKadosh, sache que partout où est envoyé Israël, l'exil aux quatre coins de la terre, c'est parce que justement tu dois là-bas récupérer, faire le birou, récupérer quelque chose qui correspond à un lien par rapport à ta propre nature, et il faut que tu récupères. Comme on a expliqué, les juifs qui ont une âme poumon vont être envoyés dans l'endroit, dans les pays qui correspondent dans la clipa au poumon. Les juifs qui ont une âme oreille vont être envoyés dans les terres oreilles. C'est tout le cours d'avant-hier, si je ne me trompe pas. Et donc c'est ça, Alar Beni Moussé, si on t'a envoyé là-bas, c'est parce que là-bas tu as quelque chose à faire, tu as un tikkun à faire. Et donc c'est quoi le tikkun? Récupérer le tempérament, l'état d'esprit de l'endroit où tu es, et le faire rentrer dans la Kdusha. Et effectivement, si on pourrait véritablement faire une véritable étude de l'histoire de l'exil d'Israël, peut-être qu'un jour elle sera faite, cette étude-là, où on essaiera de prendre ces deux derniers millénaires, partout où les Juifs ont été, d'essayer de sonder l'état d'esprit, le caractère, la spécificité du judaïsme de l'endroit, et on se rendra compte que chaque judaïsme correspondait clairement à un tempérament du monde ambiant récupéré dans la Kdusha. Ça veut dire qu'un juif russe sert Dieu d'une manière qui est spécifique et liée au tempérament russe, un juif français, un juif marocain, un juif tunisien, un juif irakien et un juif israélien. Ça veut dire que chaque endroit t'apporte un tempérament que tu dois rentrer dans la Kdusha. Et c'est pour ça qu'il ne peut en aucun cas y avoir une ressemblance, pendant l'exil je parle, entre le juif américain, le juif russe et le juif français. Parce que, ou le juif irakien ou le juif iranien, parce que chacun va selon l'endroit qui correspond à son Shoresh Neshama, la forme de la klipa dans laquelle il se trouve. Et donc, juste encore une phrase ou deux, Veyesh Lomar, parce que ça c'est vraiment l'endroit le plus fort du texte, et tu dois comprendre, chez Abbé Atalia, qu'en vérité l'un dépend de l'autre, parce que Kedelifol est à Birour Tartambéoter, pour pouvoir faire le Birour de l'endroit le plus bas du monde qui est la France, Zekoukim le Kohara Etsem, faut que se dévoile l'essence de l'âme. Et après il part sur tout un passage où il explique que plus le tikkun est fort et difficile, et plus pour le réaliser, il faut que se dévoilent des forces de l'âme de plus en plus profondes. Et il dit, puisque le Mashiach va arriver à dévoiler le Etsem, l'essence de l'âme, il fallait donc qu'il soit lui-même confronté à l'endroit qui est la klipa la plus forte. C'est donc la France. Et par le tikkun de la France, à ce moment-là se dévoile l'essence de l'âme. Voilà. En vérité, je voulais lire et expliquer beaucoup plus que ce que j'ai lu et expliqué, mais je ne me rendais pas compte que j'avais choisi beaucoup trop de textes par rapport aux limites du cours. Je pense, Bezrat Hashem, avoir dit l'essentiel, je pense qu'on a terminé, je pense, cette semaine royalement, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle du Mashiach. Et le mot de la fin avant, deux questions, pas plus, parce qu'on doit honorer, bon, trois questions, on doit honorer vraiment un petit déjeuner. Et donc, le mot de la fin, c'est pour se renforcer dans notre conviction que nous avons, nous, juifs venus de France, ici à Jérusalem, qu'on a un rôle non seulement important, mais déterminant par rapport à la délivrance du monde. Alors évidemment, si c'est ça la conclusion du cours, je pense que chacun d'entre nous va dire, mais attends, mais où je suis moi là-dedans? Je veux dire, j'ai déjà du mal à m'imposer chez moi à la maison, je vais... Vous comprenez? Bon. On connaît tous nos limites, mais soyons un peu français. Cessons d'avoir peur de nos limites. Soyons des dévergondés de la Kdusha. C'est quoi être dévergondé? Ça veut dire montrer ce qui ne devrait pas être montré. C'est quoi être dévergondé dans la Kdusha? C'est vrai, je suis un nul, mais c'est pas grave, je m'impose. Ça veut dire, j'ai quelque chose à faire. Il faut qu'on arrive à sortir une fois pour toutes de cette maladie qui ronge l'humanité depuis avant même la création, je plaisante bien sûr, de se décharger. Toute l'histoire humaine est fondée sur le principe du déchargement. On se décharge sur un qui est mort pour tout le monde, on se décharge sur le gouvernement qui dirige tout le monde, on se décharge sur les prophètes, on se décharge sur le rabbi, on se décharge sur les tzadikim, on se décharge sur la prière même, on se décharge sur le bon Dieu, mais on passe notre vie à se décharger. Le Mashiach va mettre fin à ce système d'oppression et d'esclavage qui est finalement que l'homme s'auto-esclaviste, oui. Puisque c'est lui qui se crée ses oppresseurs, c'est lui qui se crée ses soumissions. C'est pour ça que le premier de tous les oppresseurs, c'est Dieu dans les religions, puisque l'homme se décharge complètement de ses responsabilités, Dieu fait tout. C'est un système inventé par les hommes pour mieux dominer les hommes. Toute la sagesse de la Torah, c'est exactement le contraire. Bien que cette sagesse traverse l'histoire en souterrain, elle n'est même pas encore suffisamment comprise par les juifs eux-mêmes, mais c'est ce que le Mashiach va mettre en évidence. Et donc, la conclusion d'une semaine de cours sur ce sujet-là, c'est qu'il est grandement temps qu'on commence sérieusement à se prendre en main, en se disant ce que disait Hillel, « Im en anili mili ». Si ce n'est pas moi qui me prends en main, personne ne pourra se prendre en main pour moi. Oui, question.
Il y a une question de Richard, okay. Du chat, excusez-moi. Que doivent faire les Français en France et en Israël pour mériter la délivrance? Et je rajoute, devons-nous mettre des sans-culottes de la Torah, comme vous aviez une fois signalé à Paris?
Comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit à Paris, moi que je l'ai dit ici. Oui, je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai été clair pendant une semaine. Est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est se mettre au travail. Mais disons qu'il faut s'abreuver à des sources qui vont dans cette direction-là. Les fameuses sources dont parlait le Mashiach, c'est des sources qui t'abreuvent de cette énergie-là. C'est évident que si tu étudies la Torah gentil, mignon, standard, bidon, des petits cours de quartier qui font de toi un gentil petit juif soumis, c'est évident que tu n'iras pas loin dans la délivrance. Mais il faut s'abreuver à des sources de Torah messianiques, ça veut dire à des sources de Torah qui t'obligent à devenir un géant, Bekitsour. Voilà.
Les gens de l'action,
moi je suis très.
Dans l'étude et dans l'action, dans tout.
Alors la question, c'est quelle action?
Comment?
La question, c'est quelle action, c'est pas quelle action.
C'est pour ça que je réponds très clairement. Il y a une étape qui est sautée dans la question. Ça veut dire d'abord quelles sont tes sources. Si tu trouves tes sources, tu n'auras pas de problème au niveau de l'action. Tu vas déjà savoir quoi faire. Il y a tellement à faire dans ce monde. Mais je ne peux pas donner un exemple d'un pour l'autre, parce que chacun, c'est son tempérament particulier. Donc, un, ça va être l'enseignement, d'une certaine manière. L'autre, ça va être une action, d'une certaine manière. L'autre, ça va être un engagement, d'une certaine manière.
Journaliste,
ça veut dire. Oui, mais ça, ce sont des mots. C'est la manière de le faire, encore une fois. C'est la manière de le faire. Tu peux être un rabbin établishment, tu peux être un rabbin messianique. Tu peux être un journaliste establishment, tu peux être un journaliste messianique, etc., etc. Ça veut dire que c'est pas encore une fois le cadre, c'est la manière. Ça veut dire que si tu vis dans on pourrait dire dans le courant du tout le monde, effacé dans le collecteur, vous avez compris, etc. Et que tu veux, je peux pas rentrer plus dans les détails, je peux pas manger pour vous.
Allez. Moi, je suis très content de ce cours parce que c'est un cours très, très important parce que moi-même, j'ai étudié à la Sorbonne, comme vous savez,
oui,
et j'ai beaucoup étudié justement la Révolution française.
Oui.
Et moi, ce qui m'avait marqué justement pendant cette étude, c'est que justement la Révolution était porteur de quelque chose de très fort, très, très puissant,
oui.
Mais que ça aboutit souvent à des résultats opposés à ce que la Révolution voulait, etc. Enfin, la Révolution trahie, tout ça, on en parle au 19e et 20e siècle. Et on voit par exemple que la Révolution, elle a été... modèle justement la liberté, l'égalité, l'égalité. Finalement, qu'est-ce que ça aboutit? Ça aboutit à une uniformisation des individus.
Bien sûr.
C'était l'idée de...
Au lieu de libérer, on l'a aliéné encore voilà, plus.
Justement. C'était l'idée aussi de l'union des peuples, la fraternité, etc. Qu'est-ce que ça aboutit à la révolution? Ça aboutit à la guerre, aux violences. Et ouais. Toutes les guerres mondiales qui ont résulté au XXe siècle résultent du nationalisme qui est né en fait dans la révolution.
Mais bravo.
Et également, par exemple, dans la révolution, il y a.
Mais ça, c'est encore une fois, c'est la clipa, c'est pas le fruit.
Exactement.
Le fruit reste bon, mais la clipa a fait dévier, comme dans voilà. Tout. C'est le phénomène connu.
Et le fait aussi, par exemple, qu'on proclame des valeurs, comme l'égalité, la liberté, mais on n'est pas capable de les vivre de manière concrète. Et ça, c'est très fort en France, parce que finalement, ces valeurs. Bon, il y a des droits, mais est-ce que ces droits sont vraiment appliqués? Est-ce que ces droits sont vraiment vécus, etc. Alors, si on dit que la France a été porteuse de ce message messianique, un message messianique qui a été tronqué, alors si Israël doit récupérer ce message messianique, révolutionnaire, okay, c'est ça en fait le mot. Alors, si aujourd'hui Israël doit assumer ce message-là, on doit assumer justement ce message de liberté, d'égalité, d'égalité dans une dimension juive, pour le monde.
Oui.
Alors c'est ça qu'on devrait dire justement, et le vivre ici en Israël.
Mais tu le dis très très bien, mais je pense que toute la semaine de cours ne dit que ça, mais je t'autorise à le résumer aussi bien que tu le fais. Oui, c'est aux juifs de France, à Jérusalem, de mettre en application tous ces textes-là, absolument. Ve'alu Moshim, Ve'artzion, Artzion c'est Jérusalem, L'ishpot est arrêtable. Ce qui veut dire que l'impulsion vient de France, mais le mishpat se fera be'artzion. C'est clair.
Parce que ce qui est
oui, le chat.
Ce qui est intéressant, c'est
je suis obligé de le dire, Olivier.
C'est quand même un modèle théocratique aussi. Il y avait quand même un roi, il y avait quand même une église qui était très forte, etc. Alors tu veux dire, en Israël, il y a aussi cette tentative d'un modèle théocratique.
Oui, on ne laissera pas le machin nous faire le coup du roi, parce que sinon on va lui couper la tête.
Le système juif n'est pas basé sur la démocratie.
Comment ?
Le système juif, enfin la Torah et autres, n'est pas basé sur la démocratie.
C'est pas juste ce que vous dites, parce que j'ai déjà fait suffisamment allusion à cela dans différents cours sur le Tanar avec David et d'autres. D'abord, le système juif, sur quoi il est basé, on n'en sait rien car il n'a jamais existé. On n'a jamais eu le temps vraiment. Il y a eu plus ou moins l'époque David Shlomo, mais le temps de dire c'était déjà fini sur des millénaires d'histoire. Et tout simplement, on a eu des rois, dictateurs, comme tout le monde. Donc on ne sait pas trop. C'est pour ça que le seul qui le dévoilera vraiment, et la Sarah, ça sera le Mashiach. Mais on a suffisamment d'allusions dans nos textes, Niglé, Nissa, etc., pour savoir que la société, on pourrait dire, à l'époque de la délivrance, est un système qui n'a rien à voir avec la monarchie telle que le monde l'a connue, qui n'a rien à voir avec la démocratie telle que le monde l'a connue, qui est une sorte de symbiose, d'équilibre entre des extrêmes, comme toute la sagesse d'Israël. Mais ça, c'est un cours en soi. Mais en tous les cas, si vous imaginez, d'accord, et je veux dire avec toute la colère dont je sais faire preuve quand ce genre de choses me rendent fou, si vous imaginez que le Mashiach va être un tordu, tête à claque, il va s'asseoir sur son trône avec sa couronne, et qu'on va venir devant lui et lui faire... Si vous avez ça le Mashiach, je serai le premier moi à le guillotiner. Le premier. Et à enlever la culotte. Qu'à Dieu ne plaise qu'on a traversé toute l'histoire en passant par Ojif Tribleka pour arriver à un crétin pareil. D'accord. C'est pas ça le Mashiach. C'est pas un taré qui s'assoit sur un trône. Maintenant, ce que ça va être le Mashiach, qui vivra verra. Mais c'est certainement pas ce que malheureusement même chez nous on attend. D'accord. Monsieur prise en charge. Il est beau, il est gentil, le plus grand, il est dingue.
Maintenant, le schéma idéal de la démocratie juive, c'est le sort de Mishkan, Meller, Shoftim, Kohanim, Betim.
Nachon,
c'est pas du tout le Meller tout seul.
Etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Encore, mes amis, encore deux questions, parce que je voudrais honorer M. Bismuth. On ne peut pas lui faire ce coup-là. Sa femme s'est vraiment dépassée. Et une question, c'est fini.
Est-ce que les Français doivent-ils être des Yosef pour sauver la France?
Mais ça veut dire quoi,
les Juifs sont déjà.
Ça veut dire que est-ce que le fait de faire son alliance, c'est pas se décharger sur Tzion?
Comment?
De rester en France et d'être la flamme.
Et ça dépend comment tu fais ton alliance. Encore une fois, je veux dire. Et puis ce cours n'était pas un cours sur l'alliance. C'était pas du tout pour une fois. Et même si j'ai parlé de venir à Jérusalem, c'est beaucoup beaucoup plus profond que ça.
L'action elle est en France. D'après
on peut vivre à Jérusalem et être encore et encore plus galoutique que qu'ailleurs. C'est vous entendrez jamais de ma bouche que viens en Israël et tu es sauvé. C'est pas possible de dire une chose pareille.
L'action elle est pas sur France.
Mais la différence est c'est que ici tu as les instruments de la réussite, et ailleurs, même si tu veux les avoir, tu ne les as pas. Mais tu peux aussi être là et avoir des instruments et ne pas réussir.
Non, il faut qu'on soit un phare.
Donc, c'est pas simplement un déplacement géographique, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça.
Une chose peut-être, juste pour compléter par rapport à ce que tu as dit, d'aller dans ton sens, Olivier. Si, enfin, je me permets, c'est un exemple, mais je crois qu'il faut qu'il y ait tout un travail, etc. Mais une des concrétisations voies et des moyens et des terrains sur lesquels les Juifs de France peuvent travailler ici, c'est qu'ils ont emmagasiné avec eux dans les siècles, etc., dans leur expérience, l'expérience de la malroute.
c'est-à-dire la souveraineté.
Sans doute parce que la Révolution française, elle a mis en avant l'État, etc. Et s'il y a bien une chose dans les institutions politiques, dans la vie politique israélienne, la vie institutionnelle, dont les Israéliens, même les plus brillants d'aujourd'hui, sont dépourvus, c'est le sens de la souveraineté. C'est-à-dire la ribonout israélite, le sens de l'État. Je vous donnerai juste un exemple. Quand Ehud Barak est revenu de Camp David en l'an 2000, il a fait une conférence de presse et il a dit il y a une différence entre le mouvement national juif, le sionisme, qui a réussi à faire des compromis, etc., et le mouvement national palestinien, qui n'en est qu'à ses balbutiements, etc. Mais comment un premier ministre d'un État souverain qui existe depuis plus de 60 ans, il peut, au niveau justement du vécu de la ribonoute, qu'est-ce que c'est que la souveraineté, comment il peut mettre sur le même plan. Autre exemple terrifiant contre lequel il faut lutter, comment...